Bonjour, et je vous transmets encore les salutations de notre église à Cahors. Hein. Albert m'a bien rappelé de vous saluer de la part de l'église. Voilà. Est-ce que vous connaissez, si je vous parle de Gladys Elward, est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors, peut-être ça va vous évoquer quelque chose. Elle est née en 1902, donc effectivement, c'est l'avant-avant-dernier siècle. Elle était une jeune fille pauvre d'Angleterre. Elle a travaillé comme domestique et elle rêvait de devenir missionnaire en Chine. Elle s'est formée pour ça, mais elle a échoué à son examen de chinois. Et la société missionnaire lui a déconseillé d'aller plus loin. Elle lui a même demandé d'arrêter. Mais elle ne s'est pas arrêtée. Avec toutes ses économies, elle s'est payée le voyage en train jusqu'en Chine. Et là, eh bien, elle s'est mise en contact avec une missionnaire avec qui elle a travaillé dans une auberge. Et elle en profitait, elle saisissait les occasions pour annoncer l'évangile dans les gens qui venaient dans cette auberge. Elle a aussi œuvré beaucoup parmi les enfants, les orphelins, les plus nécessiteux. Et elle allait parfois jusqu'à risquer sa vie. Vous savez qu'en Chine, en tout cas c'était une pratique à l'époque, de bander les pieds des fillettes pour les garder petits. Et Gladys Elward a lutté contre cette pratique qui était une pratique de torture pour les petites filles. Hein. Et en 1938, donc à la veille de la guerre, il y avait déjà la guerre entre la Chine et le Japon, et la région a été envahie par les forces japonaises. Et Gladys Elward, elle a pris avec elle près de 100 enfants orphelins, elle les a emmenés à pied sur une colline pour les mettre à l'abri. Elle était elle-même blessée. Et si vous voulez voir son histoire, il y a un film qui retrace sa vie, s'appelle L'Auberge du Sixième Bonheur. C'est un vieux film, mais que je vous recommande, L'Auberge du Sixième Bonheur. Elle a été rejetée, Gladys. Elle a été jugée pas assez douée pour être missionnaire en Chine. Mais cela n'a pas empêché le Seigneur de l'utiliser. Et comment ? De l'utiliser dans sa faiblesse. Parce qu'elle a persévéré, parce qu'elle aimait le Seigneur, parce qu'elle est restée fidèle au Seigneur. Et la prochaine lettre aux églises de l'Apocalypse, donc on arrive à la sixième, hein, je poursuis mon étude. La sixième s'adresse à une église modeste, avec peu de puissance, mais qui est restée fidèle au Seigneur. C'est la seule église avec celle de Smyrne qui ne reçoit aucun reproche de la part du Seigneur. Pourtant, ce n'est pas pour autant qu'il n'a rien à lui dire. Même quand tout va bien, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Et cette lettre, elle est là pour encourager les découragés, ceux qui ne se sentent pas à la hauteur, et aussi pour encourager ceux qui sont fidèles à rester fidèles, à ne pas se relâcher, à ne pas se reposer sur ses lauriers, en se satisfaisant de peu. Donc je vous invite à lire la lettre à l'église de Philadelphie en Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 13. Apocalypse 3, versets 7 à 13, si vous y êtes, je lirai. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Jusqu'à ce qu'il y ait la parole de Dieu, je vais prier. Père Saint, nous te remercions parce que, Seigneur, tu as commencé une œuvre en nous et nous croyons que tu la finiras, que tu l'achèveras, quelle que soit notre faiblesse, Seigneur, quel que soit notre état, parce que tu l'as promis, Seigneur, de bâtir ton Église. Seigneur, nous te demandons nous ouvrir le cœur et l'intelligence pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous nous reposons entièrement sur ta parole. Et Seigneur, je te prie, voilà, que nous la recevions, Seigneur, par ton esprit. En Jésus-Christ. Amen. Le verset 8, je sais pas, il interpelle quand même. Le verset 8. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. On aurait peut-être été moins surpris de lire, voici, tu as été assez puissant pour garder ma parole et ne pas renier mon nom. Mais c'est pas ce qui est écrit. Ce verset laisse entendre qu'on peut rester fidèle au Seigneur Jésus, même dans notre faiblesse, et je dirais même plus, à cause de notre faiblesse. Alors comment est-ce possible de rester fidèle au Seigneur en se sachant faible? Il y a une énigme là. Où se trouve la clé? Eh bien, voici la clé qui ressort de ce texte. Gardons la parole de vérité et elle nous gardera. Gardons la parole de vérité et elle nous gardera. C'est ce que je vous propose de voir. Alors, en trois points. Premièrement, nous verrons, eh bien, quels sont les effets de ne pas garder la parole de vérité? Quelles sont les conséquences, les effets? Comment ça se manifeste de ne pas garder cette parole? Deuxièmement, nous verrons comment garder la parole de vérité. Et troisièmement, nous verrons quels sont les résultats d'avoir gardé la parole de vérité. Donc, premièrement, voyons quels sont les effets de ne pas garder cette parole. Donc les deux seules églises qui ne reçoivent pas de reproches de la part du Seigneur, c'est donc l'église de Smyrne et Philadelphie, ce sont ces mêmes églises, si vous reprenez la lettre à Smyrne, ce sont ces mêmes églises qui subissent une opposition acharnée de la part de ceux qui se disent juifs mais qui ne le sont pas. Ce que Jésus appelle la synagogue de Satan, dans les deux lettres. Alors qui sont-ils? Eh bien, ceux qui ne gardent pas la parole de vérité et contre qui Jésus est le plus sévère, ce sont les religieux, les faux juifs, les chefs religieux, les faux juifs qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Ils mentent, nous dit le texte. Pourquoi? Parce qu'ils nient la personne et l'œuvre de Jésus. Ils nient Jésus comme étant le saint et le véritable, verset 7. Autant d'attributs qui s'appliquent à Dieu. Et oui. Et de fait, eh bien, ils font Dieu menteur. Jésus, le saint, le véritable, par opposition à un imposteur. Il est celui en qui tout est vrai, certain, loyal, et en qui toutes les promesses de Dieu sont accomplies. Alors ces religieux, si on veut dresser leur portrait, ils ont une religiosité, vous savez, une religiosité qui est toute extérieure. Ils jugent sur l'apparence, ils fonctionnent au mérite, et ils croient au salut par les œuvres. Pas au salut par la grâce. Ils rejettent le salut par la grâce. Alors, ça évoque des systèmes religieux puissants qui soignent l'apparence, qui veulent des cultes spectaculaires avec beaucoup de monde, beaucoup de richesses, même avec des miracles apparents. Et ils regardent avec condescendance ceux qui sont moins puissants, plus petits, plus modestes. Alors, c'est pas le spectaculaire qui sauve. Dans certains milieux, on met l'accent sur le spectaculaire, et ça peut être spectaculaire, ce sont des choses surnaturelles qui se produisent. C'est pas le spectaculaire qui sauve et qui rend les gens meilleurs. Et on est à une époque, n'est-ce pas, où les gens ont soif de surnaturel. Comme pour se donner un pouvoir. Les Juifs ont vu les miracles que l'Éternel a opérés quand il les a délivrés de l'Égypte, en ouvrant la mer Rouge en deux. Quel prodige! Les Juifs ont vu ça de leurs yeux pour les laisser passer, mais ça n'a pas suffi à les rendre obéissants, ça n'a pas suffi, la vue de ces miracles, à enlever leur péché. Et il est question de porte aussi dans le passage, dans l'Exode. Eh bien, en ouvrant une porte aux Hébreux à travers la mer Rouge, Dieu a fermé cette même porte aux Égyptiens qui étaient derrière. En libérant Israël, eh bien, Dieu voulait se faire un peuple qui lui soit, qui l'adore, qui le serve. Mais Israël a échoué. C'est Jésus qui ouvrira une meilleure porte, une porte d'espérance, celle-là. Et pas seulement pour Israël, mais pour le monde entier. Cette fois, cette porte, eh bien, il l'ouvrira à la croix, en mourant sur la croix. Il a été crucifié avec une couronne d'épines. Et il vous, ceux qui ne l'ont pas encore fait, en tout cas, il nous propose, il vous propose, il nous a proposé, pour ceux qui l'ont fait, de proposer sa couronne à lui, sa couronne glorieuse, contre notre couronne, parce que c'est nous qui aurions dû porter la couronne d'épines. Les épines, ça représente le péché. Il n'y avait pas d'épines avant qu'Adam et Ève ne chutent. Les épines, elles datent depuis la chute d'Adam et Ève. La couronne d'épines de Jésus, ça représente le péché que lui n'avait pas, mais il a pris notre péché à la croix, en mourant pour nous à la croix. Et si vous n'avez pas encore fait, si tu ne l'as pas encore fait, quel que soit ton âge, il te propose d'échanger ton péché et il te donne la vie éternelle. Jésus a reçu toute autorité de la part du Père lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts. Et Jésus se présente dans cette lettre comme le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Jésus, déjà, il s'est présenté comme celui qui a les clés du séjour des morts, en chapitre 1, verset 18. Eh bien, non seulement il a les clés du séjour des morts, mais il a aussi les clés du royaume de Dieu, pour ouvrir ou fermer définitivement l'accès à la Jérusalem céleste. Il est le fils de David, il est le saint, le véritable, la vérité, le seul chemin qui mène au Père. Et il a non seulement les clés de son royaume, Jésus, mais il est la porte d'accès à son royaume. Il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » Alors peut-être ceux de ma génération, ça vous dirait quelque chose, peut-être pas les plus jeunes. Il y a une chanson qui dit « On ira tous au paradis ». Peut-être ça vous dit quelque chose. Eh bien non, c'est pas le cas. Seuls ceux qui auront franchi la porte, Jésus, par la foi et la repentance, reconnaissant qu'on a tous besoin de son pardon, seuls ceux-là, eh bien, seront sauvés de leurs péchés et admis dans la maison du Père. Parce que Dieu est saint et le péché ne peut pas rentrer au ciel. Les autres qui n'auront pas voulu de ce salut, ceux qui ne se sont pas repentis, ils vont rester dehors. Les non-croyants. Jésus dit, en Luc 13, verset 25, « Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais d'où vous êtes ». Il s'adresse à ceux qui ne se sont pas repentis de leur péché, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors oui, la porte sera fermée pour certains, et ouverte à nous qui avons cru. Et c'est une chose de ne pas croire. Mais à s'obstiner à ne pas croire, il y a le risque d'un endurcissement jusqu'à empêcher les autres de croire. Et c'était ce qui est arrivé aux Juifs qui devenaient chrétiens. Les faux Juifs, parce que c'était pas des vrais, les vrais les auraient acceptés. Les faux Juifs, eh bien, les excluaient de leur synagogue. Et en les excluant de leur synagogue, ils mentent en fermant la porte à l'évangile, en leur disant en quelque sorte, vous êtes chrétiens? Vous êtes exclus du royaume, c'est nous les élus. Ils mentent. Mais c'est oublier que Dieu appelle tout le monde à venir à lui. La porte est ouverte à tous. C'est oublier que Dieu nous aime et nous accepte tels que nous sommes pour venir à lui. Celui qui ouvre et personne ne ferme est aussi celui qui ferme et personne n'ouvre. Et il y a là un avertissement sérieux pour tous ceux qui empêcheraient quelqu'un de devenir chrétien. Ceux qui les excluent seront eux-mêmes exclus du royaume de Dieu, à moins qu'ils ne se repentent. Et je crois que ça a une portée aussi envers certains adultes qui empêchent les enfants de venir à Jésus. Alors, ça peut venir parce qu'ils pensent qu'ils sont trop jeunes ou trop petits. Mais quand on lit la vie de Jésus, les enfants l'accueillaient. Non, les enfants ne sont pas trop petits pour venir à lui. Alors il y a aussi des chrétiens, déjà chrétiens, qui ont franchi la porte, qui ont sont sauvés. Ils ont franchi la porte du salut en croyant en Jésus, et ils ont voulu franchir une deuxième porte, celle-là pour aller plus loin, pour devenir missionnaire. Mais ça peut arriver, certains se sont vus fermer cette porte. Ils se sont vus fermer cette porte parce qu'on leur a dit « Retourne à ton travail, tu n'as pas le don ». Alors que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers, il y a besoin d'ouvriers. Tu n'as pas le don pour faire telle ou telle œuvre. Alors c'est possible qu'il n'ait pas le don. C'est possible. C'est possible aussi qu'il l'ait. Et face à une porte fermée, il y a deux attitudes qui sont possibles. Deux attitudes possibles. Soit on se dit, puisque c'est comme ça, après tout ce que j'ai fait, ce n'est plus la peine de continuer, je quitte l'église. Et ça, eh bien, ça révèle une mauvaise motivation dans le cœur. C'est vouloir plaire aux hommes avant de vouloir plaire à Dieu. Et là, eh bien, on risque d'être déçu, si la motivation c'est ça. L'autre attitude, même quand une porte se ferme, eh bien, c'est de se dire, d'accord, j'accepte, Dieu est souverain, mais je persévère. Je continue à lui rester fidèle et à le servir, même si c'est pas comme je l'imaginais, même si personne ne me voit, même si personne ne me connaît, même si je n'ai pas le soutien financier, même si c'est dans des petites choses. L'important, c'est de se savoir connu, vu et aimé du Seigneur. Et il a certainement un plan pour ma vie, comme il en a un pour ta vie. Alors, eh bien, Christ regarde avant tout à ta fidélité. Il ne regarde pas tes performances. On est dans un monde de performances. Ça, c'est le monde qui juge quelqu'un d'après les performances. Qu'est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Non, ce que Jésus regarde avant tout, c'est ta fidélité. Alors, voyons justement mon deuxième point. Comment garder la parole et rester fidèle? Ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c'est que nous soyons trouvés fidèles dans la tâche ou les tâches qu'il nous confie. Que ça soit des petites tâches ou des grandes tâches. Parce qu'il confie pas les mêmes tâches à tout le monde. C'est pas le nombre qui compte. C'est pas le nombre d'œuvres ou leur grandeur qui compte. Alors, vous connaissez peut-être la parabole des talents et je vous donne la référence, on va pas la lire maintenant, c'est dans Matthieu 25, 14 à 30. Dans cette parabole, Jésus donne exactement la même réponse à celui qui avait reçu les 5 talents et qui les a fructifiés pour en gagner 5 autres, qu'à celui qui avait reçu 2 talents et qui en a reçu 2 autres. Jésus donne exactement la même réponse, celle-ci, en Matthieu 25, 21. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Tu veux rentrer dans le ministère? Commence par être fidèle dans les petites choses. Même si des portes se sont fermées pour toi. Sois fidèle dans les petites choses, Christ te confiera de grandes choses. Et quelle est la clé pour rester fidèle dans la faiblesse, dans un monde qui est contre lui? Quelle est la clé pour rester fidèle dans la faiblesse sans puissance? Eh bien, d'après ce passage, la puissance, elle est étroitement liée à la vérité. Si on reste attaché à la vérité, on sera véritablement puissant. Mais si on ment, là on risque de s'affaiblir. La vraie puissance, elle est de se savoir faible en soi-même et elle est d'être fidèle à celui qui est le véritable et qui est la vérité. La vraie puissance, elle est dans rester attaché à la vérité. En 2 Corinthiens chapitre 3, verset 8, l'apôtre Paul dit « Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. » Tu veux être puissant, reste fidèle à la vérité, évite les mensonges. Et à notre époque, qui rejette les valeurs morales absolues, on prétend que tout est relatif, même l'identité sexuelle, on prétend qu'on peut changer de sexe, on prétend qu'il n'y a pas de vérité absolue, on rejette, on mélange le bien et le mal. Eh bien, à notre époque, restons attachés à la vérité. Elle est là, la vraie puissance. Aimons l'Église et nous serons gardés. Proverbe 14, verset 5, « Un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. » Comment rester fidèle? En restant attaché, fidèle à la vérité, à la parole de vérité. Et puis aussi, ce n'est pas par nos propres forces. C'est par la grâce de celui qui a les clés que nous pouvons rester fidèles. C'est par sa force à lui. C'est par la grâce qu'on peut rester fidèle. L'apôtre Paul, il avait compris. L'apôtre Paul, il avait compris la grâce parce que vous savez, il avait une écharde dans la chair, nous dit la parole, et il aurait aimé que cette écharde lui soit enlevée pour être plus puissant dans son ministère. Mais Dieu lui a répondu quand Paul a demandé que cette écharde lui soit enlevée, Dieu lui a répondu, en 2 Corinthiens 12, verset 9, et il m'a dit, donc Dieu a dit à Paul, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est sa grâce qui va nous permettre de rester fidèles. Et cette grâce, où est-ce qu'elle est? Eh bien, elle est dans la parole même de Dieu. Gardons la parole et elle nous gardera. C'est cette parole qui va nous donner la grâce d'être persévérants. Et vous avez remarqué, dans ce texte, il est question de parole de persévérance. Parole de persévérance. C'est cette parole qui nous rend persévérants en Jésus. Elle est appelée la parole de persévérance. Au verset 10. Gardons la parole et elle nous gardera. Elle contient les promesses de Dieu. Du Dieu qui ne peut pas mentir et sur lesquels on peut s'appuyer. Promesses comme celle-ci, je te garderai à l'heure de la tentation mondiale qui va survenir. C'est la grande épreuve, tribulation qui va s'abattre sur le monde. Cette promesse, je te garderai. Nous serons gardés, le Seigneur l'a promis. Oui, il a promis et il est fidèle à ses promesses. Mais il a promis à celui ou celle qui garde sa parole, la parole de persévérance. C'est où l'on trouve justement ces promesses qu'il nous gardera. Et ça ne s'adresse pas à celui qui professe être chrétien, mais qui au fond ne l'est pas. C'est par la grâce qu'on peut rester fidèle à Dieu. Et cette grâce, eh bien, elle est de se savoir aimé, de se savoir guidé par l'amour inconditionnel de Dieu en Jésus-Christ. Il nous aime, même si on a peu de puissance. Il ne regarde pas nos performances. Il t'aime, il nous aime. Et c'est cette assurance d'être aimé de lui qui va nous pousser à abandonner notre vie de péché et à lui rester fidèle. Il t'a aimé à un si grand prix. Il nous a aimés. Et comment lui rester fidèle? Eh bien, en l'aimant à notre tour et en aimant nos frères et sœurs de l'Église. Par des bonnes œuvres. Et là, on voit la motivation des bonnes œuvres. C'est pas pour en faire plus, pour se faire remarquer. Ça doit être l'amour pour Dieu qui m'a aimé, que je fais aimer mon frère, ma sœur. Et pas pour me croire meilleur, n'est-ce pas? L'amour se reçoit et se partage. Et alors, Philadelphie, le nom Philadelphie, eh bien, ça a une signification, ça veut dire... L'église de Philadelphie, le nom Philadelphie veut dire « amour des frères ». C'est une église qui vit l'amour, qui a vécu l'amour, « amour des frères ». Dans leur faiblesse, ils ont gardé la vérité de la parole, eh bien, non seulement en la proclamant, mais en la pratiquant. Le verbe « garder » du verset 8, « garder la parole », ça a le sens d'observer dans le sens de mettre en pratique. C'est ça, garder la parole. C'est la mettre en pratique et pas seulement la proclamer. C'est donc une exhortation à veiller les uns sur les autres pour que l'amour soit présent. Et pour que l'amour... Quand est-ce que l'amour se refroidit? C'est pendant l'épreuve. Et l'épreuve, elle va arriver. Pour cette église, ils l'ont connue. Eh bien, c'est l'amour qui va nous permettre de tenir ferme. Je vais y revenir à cette heure de l'épreuve. Donc c'est une exhortation à garder l'amour entre frères et sœurs dans l'Église, exhortation à chercher et à garder l'unité dans l'Église, parce qu'on est plus fort ensemble. L'amour consiste à ne pas faire tomber mon frère ou ma sœur en blessant sa conscience, à ne pas médire de lui ou d'elle, à ne pas mentir à son sujet. Bref, à vouloir son bien spirituel, en sachant être disponible, en priant pour lui ou pour elle, en partageant avec lui ou elle les joies, les souffrances. Alors oui, on peut rester fidèle collectivement, cette église qui a vécu l'amour des frères, des sœurs. Mais si l'église est là, eh bien, cette église, elle est tout entière approuvée collectivement par le Seigneur. Malgré sa faiblesse, et elle est restée fidèle. Elle est approuvée collectivement. Pourquoi? Eh bien, à cause de la foi individuelle de chacun de ses membres. Parce que là, nous avons notre rôle en tant qu'un membre de l'Église, membre individuel. Et là, eh bien, si toute l'Église est approuvée, c'est parce que chaque membre veillait justement non seulement à son frère, à sa sœur, mais veiller sur lui, dans sa propre vie. Parce que pour remporter une grande victoire, il faut déjà en remporter des petites. Il faut déjà en remporter des petites. Pour remporter une grande victoire en période de crise, il faut individuellement commencer par en remporter de petites en temps normal. Il ne faut pas attendre que la crise soit là. C'est déjà en temps normal qu'on va s'entraîner, qu'on va persévérer. Il faut de l'entraînement, il faut de la persévérance. Et on prend l'image du sportif. Imaginons que vous vouliez courir un marathon, mais vous n'avez aucun entraînement. Eh bien, avant de courir un marathon, il faut commencer par courir un 1500 mètres. Et là, vous allez être équipé pour remporter le marathon. Il y a un verset qui... Dans Jérémie 12, verset 5, qui est très parlant dans ce sens-là. Jérémie 12, verset 5, je vous le lis. Si vous ne pouvez soutenir le rythme d'une course à pied, comment pourrez-vous rivaliser avec des chevaux? Et si vous êtes incapable de garder un esprit calme en période de beau fixe, comment allez-vous gérer les circonstances de crise, comme par exemple une grosse inondation du Jourdain? Fin de citation. L'important, c'est de commencer et de rester fidèle dans les petits commencements et en augmentant progressivement. Vous voulez suivre un régime, peut-être? Je ne sais pas s'il y en a ici, mais en tout cas, eh bien, diminuez progressivement les quantités. Plutôt que de vouloir vous priver complètement de quelque chose que vous aimez, baissez progressivement. La cigarette, c'est autre chose. Là, il vaut mieux arrêter complètement. Hein. Mais en tout cas, voilà. Vous désirez peut-être une vie de prière plus fervente. Vous vous dites, j'aimerais bien passer une heure. Mais vous n'y arrivez pas parce que vous travaillez le matin, vous vous levez, vous avez un emploi du temps chargé. Et vous n'arrivez pas à vous tenir à une heure chaque jour. Eh bien, commencez par 5 minutes. Commencez par 5 minutes, puis augmentez progressivement. 10 minutes, puis 15 minutes. Et quand on commence, eh bien, on y prend goût. Et ne nous inquiétons pas. Pareil pour la lecture quotidienne de la Bible. Vous n'arrivez pas à vous tenir à un temps, une heure, une demi-heure. Commencez petit. Quelques versets qui vous ont bien parlé. Et puis un chapitre entier, et puis deux chapitres. Et mettez en pratique aussi ce que vous avez lu. On construit sa vie en posant une pierre après l'autre. Et comme quelqu'un a dit, je cite, hein, c'était dans une pensée quotidienne que j'ai lu ça, si vous adoptez l'attitude du tout ou rien, vous risquez de faire longtemps du surplace. On s'y met jamais. Alors que, au lieu de commencer petit à petit, on se dit, ben non, j'aimerais faire tout de suite mon gros projet tout de suite. Mais commencez petit à petit, par une pierre, puis une pierre après l'autre. Et à chaque victoire, même si vous vous êtes tenu à 5 minutes alors que vous n'avez pas l'habitude de prier, célébrez vos victoires, célébrez vos petites victoires pour vous encourager. Voilà comment rester fidèle, déjà dans les petites choses, et puis augmenter progressivement. L'église de Philadelphie, eh bien oui, c'était une église sans puissance, avec des œuvres sans éclat ni force, et elle n'a pas renié Christ, même devant beaucoup d'opposition. Alors, quand on est fidèle, il y a des résultats. Quels sont, voyons mon troisième point maintenant, quels sont les résultats d'avoir gardé la parole de vérité? Gardons la parole et elle nous gardera, je cite le verset 10, elle nous gardera à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Eh bien, c'est une promesse qui vaut aussi pour récompense, que nous serons gardés si nous gardons la parole. Et on peut être sûr qu'il y aura un temps d'épreuve sur la terre entière. Dans le monde, il y en a eu, il y en aura encore, et je dirais même plus, il y en a en ce moment. Nous sommes dans un temps où, et dans un pays où pour le moment, il n'y a pas de persécution. Comme en Corée du Nord, et on a là un ami qui vient d'Afghanistan, et en Afghanistan, les chrétiens sont très persécutés là-bas. Ce n'est pas le cas ici en France, pas encore. Mais nous sommes quand même impactés. N'est-ce pas? Nous avons quand même une certaine liberté. Nous sommes impactés par la crise mondiale. On est impactés par la guerre en Ukraine. Il n'y a pas d'huile dans les rayons. Alors vous allez me dire, c'est quand même une difficulté. On est impactés par la pandémie. On est impacté par le réchauffement climatique, par la crise économique, et j'en passe. Donc même si on n'est pas dans un pays de persécution, comme dans certains pays, on est quand même impacté. Mais si déjà nous gardons l'évangile en temps de paix, on peut considérer quand même, on est encore dans un temps de paix, si nous le gardons, si nous sommes fidèles déjà dans la liberté dont nous jouissons, profite des occasions d'aller à l'église, de se retrouver entre frères et sœurs pour s'encourager, eh bien, si nous sommes fidèles déjà dans les petites choses, même en temps de paix, eh bien, nous serons gardés par Christ en période de crise, à l'heure de la tentation. Voilà notre récompense. La même grâce divine qui nous rend persévérants en temps de paix dans les petites choses, elle nous rendra, elle nous gardera fidèles et nous gardera persévérants au temps de la persécution. Quels sont les résultats d'être fidèles? Eh bien, à ceux qui auront gardé la parole, qui auront été fidèles, Christ fait cette promesse. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. De quelle porte s'agit-il ici? Eh bien, il s'agit de la porte du ministère. J'ai mis devant toi, le mot maître, ça peut se traduire par j'ai payé devant toi. La porte que Dieu a ouverte pour annoncer l'évangile, il l'a payée. Il l'a payé de son sang, il l'a payé aussi à la croix, cette porte ouverte. Et personne ne peut la fermer. Pour la bonne raison que Christ l'a payé aussi à la croix. Alors si la porte parmi les Juifs était fermée, le chemin pour la conversion des païens est ouvert. La ville de Philadelphie à l'époque formait un carrefour. C'est de là d'où la langue grecque s'est répandue dans le monde. Et Philadelphie était un carrefour où la langue grecque pouvait se répandre. Eh bien c'était là que l'évangile pouvait se répandre aussi, dans le monde, à partir de ce carrefour, pour diffuser qui diffusait déjà la langue grecque. Donc c'était une position stratégique pour répandre l'évangile et la manière de vivre chrétienne. Si tu es chrétienne, et que tu as à cœur de servir le Seigneur, est-ce que tu vas franchir cette porte? Elle est ouverte pour partager ta foi. Et quand on franchit cette porte, ouverte par le Seigneur, eh bien, il nous fortifie. S'il a ouvert une porte, c'est pour qu'on la franchisse. La première porte, c'est la porte du salut, pour ceux qui ne sont pas sauvés. L'autre, c'est la porte du ministère, pour le servir. Et quand on franchit cette porte, eh bien, c'est lui qui l'a ouverte, il nous fortifie. Alors, le Seigneur revient bientôt. Attends-le. Si tu gardes sa parole et la couronne de vainqueur que lui t'a acquise à la croix, il te gardera pour toujours dans son temple, comme une colonne enracinée dans son amour. Tu fais partie de cette fiancée fidèle qui recevra le nom du fiancé fidèle qui n'a pas voulu rompre son alliance avec elle. Jésus est fidèle. Sur chacun des croyants, sur chacun d'entre nous, eh bien Christ écrira le nom de son Père. Il y a plusieurs noms qui sont cités ici. Il écrira le nom de son Père. Il écrira le nom de sa famille qui est la Nouvelle Jérusalem et le nom nouveau de Jésus-Christ. Il s'agit là des noces de l'agneau. Il s'agit du mariage de Dieu avec son peuple, l'Église. L'Église qui est appelée en 1 Timothée 3,15 la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. La solidité, elle est dans la vérité. Et c'est nous, l'Église, qui sommes appelés à vivre cette vérité. Dans la Nouvelle Jérusalem, donc celle qui descendra du ciel, hein, pour son Église, eh bien, la Nouvelle Jérusalem ne comporte pas de temple. Elle est elle-même le temple de Dieu. Et aussi, eh bien, Dieu Père et Fils est aussi le temple. Chapitre 21, verset 22. Ça évoque une intimité parfaite entre Dieu et son peuple. Une intimité indestructible. Et comme dans les autres lettres, la récompense suprême que Dieu promet à ceux qui sont fidèles, eh bien, c'est sa personne même. C'est une intimité la plus profonde avec Dieu lui-même. La récompense, c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même, notre récompense suprême. Cette promesse d'une stabilité, d'une communion éternelle avec Dieu, eh bien, elle a dû parler aux habitants de Philadelphie, parce que vous savez, pour ceux qui viennent cet après-midi, pour voir le reportage sur cette église, elle est construite sur un endroit qui est sismique, sensible aux tremblements de terre. Et vous imaginez les habitants de Philadelphie, quand il y avait un tremblement de terre, il fallait qu'ils aillent se mettre à l'abri sous des tentes. Et quand ça s'était calmé, ils revenaient. Et il fallait reconstruire. Ça a dû leur parler, cette image de la Jérusalem stable. Est-ce que tu fais face à des tremblements de terre dans ta vie? Est-ce qu'il y a des tremblements de terre qui t'ont ébranlé? Est-ce que tu tiendras bon parmi, même face aux circonstances contraires? C'est possible. Cette lettre est là pour nous exhorter, pour nous encourager. Il y a parfois du mépris que certains peuvent vivre. Le mépris ne dure qu'un temps. Jésus dit qu'il fera venir se prosterner aux pieds des vrais croyants ceux qui les méprisaient. Il leur fera reconnaître qu'il les a aimés. Et peut-être que ça les changera. Encore un effet de la grâce. Et j'aimerais, pour terminer, vous donner un extrait d'un livre. Il s'appelle Bernard Bollet. Alors, j'ai résumé. Hein, c'est l'histoire de Henri. Henri, il était très doué pour les études. Il a fait des études brillamment. Il a fait des études en théologie. Il voulait être missionnaire. Et contrairement à Gladys, lui, il était vraiment doué pour les études. Il a obtenu ses diplômes. Gladys, elle ne l'avait pas retenu, n'avait pas eu son diplôme de chinois. Il a obtenu ses diplômes pour être missionnaire en Afrique. Mais il sera refusé par la société missionnaire. Les portes ne se sont pas ouvertes pour lui. Mais il ne s'est pas rebellé. Finalement, eh bien, il gagnera sa vie dans un emploi séculier en tant que prof auprès d'enfants immigrés. Souvent d'origine africaine, mais pas seulement, des immigrés du monde, hein, du monde entier. Tout en servant dans sa petite église locale. Et à la fin de sa vie, il a fait un rêve où il a vu défiler les visages de tous ceux qu'il a aidés et qu'il a aimés pendant sa vie. Alors, il y avait bien sûr ses élèves qui s'appelaient Nguyen, Boris, Babou, Idriss, Fatima. Il y avait aussi ces jeunes chrétiens de son église qu'il a encouragés à partir en mission, même si lui pensait ne pas y être parti. Il les a accompagnés pour qu'ils grandissent dans la foi, pour qu'ils deviennent des hommes, des femmes mûres dans la foi, pour qu'ils deviennent des missionnaires. Il est resté fidèle en invitant ce frère ou cette sœur à la fin du culte, chez lui, pour partager un repas. Il est resté fidèle dans les petites choses. Il a été missionnaire. C'était ça sa mission. Lui voyait autre chose, mais pour lui, dans sa situation, c'était ça sa mission. C'était pas une mission héroïque avec beaucoup de gloire. Non, c'était pas ça qui lui était demandé. Parce que de ça, il aurait pu en tirer orgueil, comme l'apôtre Paul aurait pu tirer orgueil s'il avait pas eu cette écharpe dans la chair. Non, il a accompli sa mission en restant fidèle dans les petites choses, en aimant les frères et sœurs, même l'étranger aussi. Il a été fidèle. Gardons la parole fidèlement et elle nous gardera. Amen, je vais prier. Oui Seigneur, tu nous aimes, tu nous reprends, tu nous parles. Parfois Seigneur, c'est vrai qu'on veut accomplir des prodiges pour toi et tu nous demandes d'accomplir des grandes choses, c'est vrai. Mais déjà d'être fidèle dans les petites choses Seigneur. Donne-nous d'être fidèle dans les petites choses que tu nous confies Seigneur. Que ça soit dans l'église, que ça soit à l'extérieur. Seigneur, donne-nous l'obéissance, donne-nous, d'être fidèle dans ces petites choses qui semblent petites, mais qui sont importantes. Parce que, Seigneur, elles sont faites pour toi, en ton nom. En ton nom, Jésus-Christ. Merci parce que tu nous montres à quel point tu t'occupes de ton église. Et, Seigneur, merci pour parce que tu as à dire à chacune de ton église. Nous voulons vraiment, Seigneur, recevoir, Seigneur, de toi pour Seigneur, être dans ton plan. Et Seigneur, être fidèle dans la mission que tu nous confies, grande ou petite. Je te remets chacun dans sa semaine, Seigneur, que chacun voit ta main dans sa vie, Seigneur, dans notre vie, que nous te voyons agir et que, Seigneur, ça nous motive à aller plus loin avec toi, être toujours fidèle. Par Jésus. Amen. Amen.